L'Association québécoise des cadres scolaires vous souhaite la bienvenue sur Balada QCS, une série de balados qui aborde des enjeux de gestion au cœur du réseau de l'éducation.
Imaginez pouvoir appuyer sur pause quand vous vivez une situation de gestion qui peut être délicate. Geler le moment, le regarder sous un nouvel angle, comme un spectateur. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je projette? Qu'est-ce que mes mots, mes gestes créent chez l'autre personne? Cette capacité de recul, certains d'entre vous la possèdent, mais vous êtes nombreux à vouloir la développer davantage et c'est un bon signe. En gestion, c'est une habileté qu'on appelle la maturité professionnelle. C'est notre thème aujourd'hui. C'est une compétence qui se développe, bonne nouvelle, qui se raffine, qui peut transformer autant votre leadership que la dynamique de toute votre équipe. Aujourd'hui à Balada QCS, on plonge dans un sujet incontournable qui touche chaque cadre au quotidien.
La maturité, c'est être capable de déléguer. Puis déléguer, c'est accepter que ça ne sera pas fait comme nous, on veut. Il y a un bon gestionnaire qui a une maturité et qui veut développer la maturité de son équipe, nécessairement, il va falloir qu'il passe tôt ou tard par la petite tape dans le dos de « Hey, je te fais confiance, je te délègue ça. » Puis c'est souvent ça qui est difficile, mais ce regard de confiance-là peut donner des ailes à des collaborateurs quand on a cette posture-là.
Autour de la table avec moi aujourd'hui, Alexandra Larouche, psychologue organisationnelle, conférencière, consultante. Bonjour Alexandra.
Bonjour Paina.
Vous connaissez notre tradition, toujours deux invités qui viennent de votre milieu. On a Jérémy Forgue, directeur des ressources matérielles et du transport scolaire, CSS de Charlevoix et lauréat aussi du prix cadre scolaire et mérite 2025 catégorie innovation. Félicitations encore Jérémy.
Hey, merci, mais bonjour Tanya.
Et également Catherine Boileau, directrice adjointe du Bureau de l'amélioration continue et de l'innovation au CSS Dessamar. Bonjour Catherine.
Bonjour tout le monde.
On vous retrouve dans quelques minutes, le temps de parler de maturité professionnelle avec notre experte invitée Alexandra. Qu'est-ce que c'est? La définition. Peut-être que certaines personnes se font une idée et que c'est totalement autre chose. Quelle est votre définition de la maturité professionnelle quand vous l'enseignez, quand vous donnez des formations aux gens?
Mais, en fait, j'ai pas de définition formelle, mais je vous dirais que la maturité professionnelle, c'est d'abord un savoir-être. Fait que je vais y aller comme ça, de manière très pratico-pratique. Souvent, on va embaucher des gens dans le travail pour leur savoir puis leur savoir-faire. Mais avez-vous remarqué qu'on met les gens dehors ou qu'on a de la difficulté dans nos relations à cause du savoir-être? C'est important pour un gestionnaire d'être soucieux de son savoir-être et d'être en mesure de développer le savoir-être de ses collaborateurs, de ses équipiers. Donc, avoir une bonne posture pour un gestionnaire, c'est savoir prendre le recul nécessaire quand on a besoin de revoir notre façon d'être dans une situation. Et la maturité psychologique, c'est un peu cette faculté-là. De prendre ce recul-là, de voir où est ma responsabilité, jusqu'où se pose ma responsabilité dans les situations de gestion dans lesquelles je suis impliquée. Quelle autonomie j'ai moi, mais quelle autonomie aussi je donne à mes collaborateurs, à mes équipiers. Comment je vais gérer mes émotions dans la turbulence? Comment je vais adapter ma communication? C'est beaucoup de choses. Comment je vais avoir cette souplesse de communication puis cette éthique professionnelle-là qui va nous permettre d'avoir une... Moi, je vais parler souvent de posture d'intelligence émotionnelle, de posture de maturité. Puis la beauté, bien, c'est que ça se développe. Donc, la maturité, je me dis tout le temps, je dis tout le temps au gestionnaire, oui, vous avez une to-do list. C'est important d'avoir une to-do list. Puis dans le cadre de nos fonctions, on a toujours la to-do list, mais il faut se rappeler qu'il faut avoir aussi une to-be list.
C'est quoi la nuance, oui?
C'est-à-dire comment je veux être pour mieux faire. Et avoir une to-be list, moi, je pense que c'est important dans un rôle de gestionnaire parce que souvent, ce qu'on va dresser un lundi matin, on va dresser toutes les tâches qu'on veut réaliser. Mais on se pose pas souvent la question, à travers ce listing de tâches-là, comment moi, je veux être?
Est-ce qu'on peut donner un exemple concret? Qu'est-ce que j'écrirais sur ma to-be list un lundi matin?
un lundi matin, je sais que j'ai des enjeux importants. J'ai des coupures, par exemple, à annoncer. Mettons qu'il y a beaucoup de choses dans la to-do. Mais moi, je propose d'avoir une to-be list dans le sens comment je veux être. Donc, aujourd'hui, là, je vais essayer d'être calme. Je vais essayer d'être équitable. Et pour ça, il faut être capable de monter au balcon. Tu sais, puis avoir sa to-be list, c'est avoir une petite ligne de conduite professionnelle. Donc, moi, je me la fais souvent. Je me dis, quel type de par exemple, dans mon rôle de maman, quel genre de maman je veux être? Quel genre de gestionnaire je veux être? Puis, est-ce que c'est à ça que j'aspire? Puis, dans ma to-be list, là, je vous le disais tout à l'heure, mais la to-be list, moi, je me fais toujours un modèle. Je me trouve un modèle de gestion. Quelqu'un qui, pour moi, et influent, quelqu'un qui pour moi a une belle maturité professionnelle et surtout que cette maturité professionnelle me donnait des ailes à moi.
Inspiration.
Me fait sentir. Ben, j'essaie toujours de modéliser quelqu'un qui pour moi a cette capacité-là. Donc.
On parlait de maturité psychologique. Maturité professionnelle, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on peut avoir une maturité psychologique à la maison, moins l'avoir au travail, vice-versa?
Oui, tout à fait, parce que ça, c'est des compétences qui se modulent en fonction des contextes dans lesquels on est plongé. Tu sais, on peut avoir une très forte maturité psychologique au travail, mais quand on arrive à la maison, bien, tout fout le camp parce qu'on est trop dans l'émotion, on est trop impliqué émotionnellement dans les situations. Tu sais, il y a des fois dans la vie, là, on côtoie des personnes en nous qu'on ne connaît pas, hein, parce que par l'émotion qui est trop forte, Et moi, je me dis toujours, quand je sens que je manque de maturité, moi, je vous partage ma petite carte secrète. C'est la carte que j'ai en arrière de ma poche tout le temps. Moi, c'est la carte des 4 H. C'est pas très compliqué. Donc, 4 H pour premier H, humanité. On est tous des humains. Puis, peu importe les situations personnelles ou professionnelles dans lesquelles on est plongé, on gère des humains qui arrivent avec tout leur petit bagage de connaissances, de compétences, puis d'enjeux aussi. Fait que premier H, humanité. Deuxième H, humilité. Quand on est une personne qui réussit à être humble dans les situations, reconnaître des fois s'être trompé ou être capable de prendre le recul et de dire hey, « je pense qu'on n'a pas pris la bonne direction tout le monde ensemble. Est-ce qu'on peut se reprendre puis revoir les situations d'une manière, d'un autre angle finalement? » Donc, humilité, honnêteté, être honnête envers soi-même, pas se placer dans un état d'incohérence cognitive qui n'est pas en lien avec nos valeurs, puis l'alignement qu'on peut avoir, puis l'honnêteté pour soi-même et l'honnêteté pour les autres. Puis on aime ça suivre quelqu'un qui est honnête. On aime ça suivre un gestionnaire qui est humble. Puis bien, le dernier, tu sais, humanité, honnêteté, humilité, mais il y a humour.
Ah oui, on a déjà fait un balado sur le sujet, c'est important.
Ah, mais c'est important, puis peut-être d'aller réécouter ce balado-là, mais c'est important de mettre l'humour. Parce qu'à quelque part, tu sais, il ne faut pas trop se prendre au sérieux dans toutes les situations, parce que pas parce que vous avez un rôle de gestionnaire que vous avez la voix, la vérité, la vie. Tu sais, d'être capable de rire, de se tromper, puis de dédramatiser les situations.
Et l'humour donc, banal amène un positivisme incroyable dans son milieu de travail. Donc, je vais faire quelques blagues, s'amuser, accrocher un sourire à notre coéquipier, ça fait toute la différence. C'est sûr. Alexandra, vous enseignez des cours à l'université, entre autres, et vous avez un sujet de prédilection qui est l'intelligence émotionnelle. Quelle est la différence entre être mature émotionnellement et avoir une intelligence émotionnelle?
Bien, écoutez, c'est un concept qui se regroupe un petit peu quand même, parce qu'on va parler de l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de la personne à comprendre, à gérer puis à assumer ses pensées, ses émotions, ses comportements de manière de manière équilibrée. Puis je vais dire en guillemets de manière intelligente. Donc l'intelligence émotionnelle va demander d'avoir une conscience de soi, c'est d'être capable d'être conscient de saisir ce qui se passe à l'extérieur mais aussi à l'intérieur de soi. L'intelligence émotionnelle va demander d'avoir une bonne capacité de gérer nos émotions. Elle va nous demander aussi d'avoir une forme d'autonomie affective, t'sais, d'avoir une capacité d'aller chercher des éléments de motivation soi-même, donc des leviers de motivation Puis l'intelligence émotionnelle sollicite aussi des capacités d'empathie, de capacité de se mettre à la place de l'autre, capacité de bien collaborer. Donc, on comprend que l'intelligence émotionnelle, ça ressemble beaucoup à la maturité professionnelle. Puis, ça évolue hein, au fil et au fur et à mesure de notre évolution, de nos prises de conscience. Mais moi, là, l'image que j'ai le goût de vous partager, là, la maturité psychologique puis l'intelligence émotionnelle, c'est une forme de souplesse, c'est une forme d'équilibre. Imaginez, là, moi, je fais souvent ce parallèle-là entre face à des situations, tu joues à la boxe, tu fais de la boxe, donc tu es en mode attaque ou défense. Mais la maturité professionnelle puis l'intelligence émotionnelle va plus nous mettre en mode karaté ou judo. Prendre, revenir, avoir une forme de souplesse. Et moi, là, je dis souvent à mes gestionnaires, est-ce que vous êtes en mode boxe? Est-ce que vous êtes en train de vous défendre ou d'attaquer? Mmh. Ou vous avez plus la posture de prendre, recevoir de souplesse? C'est un peu ça l'image. Puis dès que vous êtes en mode boxe, c'est pas bon, là. Parce que vous êtes en train de réagir.
Il faut penser à un autre loisir.
Il faut penser à une autre posture. Il faut penser à plus de souplesse.
Alexandra, on dit souvent à un enfant, à un préadolescent, « Wow, t'es un petit garçon, t'es une petite fille vraiment mature. » On sait le reconnaître pour la jeunesse, mais on dit rarement ça à un adulte. « Je te trouve mature.
» C'est vrai, hein? Mais la maturité, là, c'est la capacité souvent de mettre des mots, M-O-T-S, sur les mots M-A-U-X. Quelqu'un qui est mature, là, on va dire, c'est quelqu'un qui est capable de nommer les choses. Tu sais, c'est rare qu'on va dire à quelqu'un, t'es un adulte, t'es mature, parce que c'est comme si on l'infantilise. Tu sais, t'es mature, on pense qu'on est tous matures. Mais à quelque part, on n'est pas tous matures, mais on a quand même tous la capacité de monter au balcon. Puis monter au balcon...
C'est quoi? Une nouvelle perspective? On prend de la hauteur?
On prend de la hauteur. Monter au balcon physiquement, là, puis psychologiquement, c'est prendre du recul. Moi, je dis, en conflit, il y a la petite règle du 48 heures. On pourrait se donner 48 heures avant de réagir. Puis monter au balcon, là, moi, je l'imagine comme je monte puis je regarde une pièce de théâtre qui est en train de se passer. Je me dissocie un peu de la situation puis je regarde. C'est un peu la conscience hein, qui dit, moi, là, comment je veux être comme gestionnaire? Quel genre de personne je veux être pour mieux retomber dans les situations de manière intelligente?
Avant de rejoindre nos invités, Catherine et Jérémy, j'ai le goût de te demander, Alexandra, est-ce qu'on a des outils, des livres, des références, des formations qui nous aident à gagner en maturité professionnelle?
Eh bien, effectivement, il y a sûrement énormément de livres. Là, j'ai une bibliothèque pleine là, de livres sur l'intelligence émotionnelle. Il y a beaucoup d'outils, mais moi, j'aime beaucoup vulgariser les choses. Vous pouvez lire des grands livres, là, très théoriques, là. Mais moi, le fait de développer de la maturité psychologique, là, puis de l'intelligence émotionnelle, c'est souvent l'image de l'œil du cyclone. Puis ça, là, c'est facile à comprendre. Quand tout tourne, quand tout va vite, là, chacun d'entre nous, on a tous un espace qui est symbolique. Un espace que ça s'appelle l'œil du cyclone.
Puis dans
l'œil
du
cyclone, là, pardon?
Un endroit ressourçant?
Un endroit ressourçant. Un endroit où il ne se passe rien. Puis dans l'œil du cyclone, il ne se passe pas grand-chose. Il se passe des fois un silence, il se passe une réflexion, il se passe un apaisement. Que ce soit une lecture, que ce soit un moment de ressourcement, un moment d'apaisement pour retourner dans le cyclone de manière intelligente. Moi, là, dès que je sens qu'il y a un conflit, il y a des situations, je me réfugie plusieurs fois par jour dans l'œil du cyclone, là. Tu sais, pour aller prendre un petit morceau de chocolat, pour retourner dans les situations, pour me poser la question comment je veux être dans ma to-be list, pour retourner dans la to-do de manière intelligente. Je peux vous proposer plein de livres. Puis ça peut être très rationnel, développer de la maturité, mais moi, là, mon image constante, c'est l'œil du cyclone. Tchou!
On garde ça en tête.
Oui.
C'est un super truc et on va le mettre en application. Catherine, Jérémy, l'avez-vous l'œil du cyclone? Est-ce que vous avez ce petit moment quotidien où vous reprenez conscience avec qui vous êtes, ce que vous voulez offrir aux gens autour de vous?
Mon petit truc, là, humblement, c'est, on dirait, j'essaie souvent de me raccrocher à l'objectif. Pourquoi on travaille, puis c'est quoi la mission, puis de rallier les gens vers l'objectif commun. Donc, on est tous là pour telle mission de notre organisation, puis pourquoi qu'on fait cette tâche-là aujourd'hui, etc., puis d'essayer de justement apporter un petit peu le rationnel. C'est peut-être ma façon d'essayer de retourner. Pour moi, c'est rassurant d'aller dans le rationnel. Fait que peut-être d'une certaine façon, je réponds à ton œil de cyclone. Jérémy, comment que tu le vois, toi?
Bien, plusieurs fois par jour, c'est pas évident dans le cadre de nos fonctions. Là, les journées sont... On a toute la même réalité. Nos journées sont surchargées. Mais à chaque jour, en dehors des heures du travail, il y a des moments où est-ce que je fais des choses qui me tiennent particulièrement à cœur. Moi, le vélo l'été, je marche toutes les soirs avec mon chien. C'est des moments qui m'appartiennent, ouais. Pour lesquels là, je vais probablement, moi, dans mon œil de cyclone. Quand les situations arrivent en cours de journée, bien, c'est plus des stratégies, dans le fond, qui nous permettent d'aller dans notre œil puis revenir comme... Travailler sur un plan de travail ou un échéancier plutôt que d'affronter immédiatement la situation. On se donne un petit peu de temps et de marge de manœuvre, capable de revenir sur la situation mieux disposée par la suite. Là.
J'aime ça. Moi aussi, l'échéancier, c'est rassurant.
Comment vos émotions vous ont aidé, Catherine et Jérémy, ou peut-être nuit dans certains contextes? À quel moment vous avez eu l'impression que vous faisiez preuve de maturité, que ça vous a été utile, que ça vous a rendu service?
Dans les infrastructures scolaires, on a des cycles de coupures puis d'investissements qui sont récurrents, puis des fois qui peuvent être très rapprochés. Puis c'est difficile de garder un sens là. Fait que souvent la meilleure stratégie, bien moi ma stratégie que j'utilise, c'est prendre un moment là pour ventiler là avec un collègue de confiance là, parce que oui, des fois c'est choquant ou on comprend pas pourquoi ça arrive, puis juste de l'extérioriser, ça fait du bien. Puis par la suite, c'est vraiment une stratégie de prendre du recul, voir les opportunités que la situation peut arriver. Je me dis toujours, qu'est-ce que je peux faire pour changer la situation? Souvent, la réponse, c'est rien. Je peux juste changer comment moi, je me positionne par rapport à la situation. Puis après ça, je travaille sur quel gain il pourrait y avoir pour notre organisation en limitant les impacts, pour être capable de retourner bien disposé vers mon équipe par la suite là, pour exposer cet enjeu-là qui revient quand même de façon récurrente dans notre secteur.
Catherine, avez-vous l'habitude de prendre un pas de recul pour mieux revenir?
Oui, aussi, là, souvent, un peu comme le mentionne Jérémy, tu sais, là, en fin de journée, etc., de toujours prendre un pas de recul. J'adore son conseil d'avoir une personne de confiance pour aller ventiler. Puis moi, ce que j'essaie un peu toujours de faire, c'est de dépersonnaliser beaucoup. Je trouve que ça nous aide vraiment à garder la droite ligne. Puis c'est beaucoup ce que je ramène à mes équipes de travail aussi, tu sais, de dépersonnaliser pourquoi on travaille, de garder le big picture. En amélioration continue, c'est aussi beaucoup ça, hein, parce qu'on le voit que on amène que 95 % des problématiques proviennent des processus et non des humains. Donc, c'est facile des fois de se sentir attaqué, d'être en mode attaque, défense, ou etc. Puis, comme tu l'as dit, Alexandra, comment revenir au karaté, là? Donc, peut-être en dépersonnalisant, puis se rappeler qui est notre client, pourquoi on travaille.
Bonjour, ici Jean-François Parent, PDG de l'Association québécoise des cadres scolaires. Saviez-vous que notre association publie chaque année des mémoires et des avis qui contribuent à l'évolution du réseau public d'éducation? Ce sont nos membres cadres scolaires qui en coordonnent la rédaction grâce à leur expertise terrain. Vous pouvez les consulter au www.aqcs.ca.
Catherine et Jérémy, est-ce que vous connaissiez la petite carte dans notre poche en arrière des 4 H d'Alexandra? Est-ce qu'il y en a un qui vous allume davantage? Peut-être que vous faites preuve plus d'humilité, d'humour dans votre quotidien, d'honnêteté. C'est quoi votre force, selon vous?
Moi, mon H préféré, c'est l'honnêteté. Même que peut-être des fois, je suis trop honnête. Je veux vraiment comme tout dire. Mais moi, c'est vraiment... ça, c'est ma carte qui soutient, en fait, je les aime bien, les 4 H, qui sont comme un peu des piliers, tu sais, de la maturité professionnelle. Quand tu parlais à Alexandra, des fois, je me disais, ah, c'est peut-être comme, des fois, je me demande si c'est l'œuf ou la poule, tu sais, es-tu capable de bien appliquer tes 4 H si tu n'as pas la maturité professionnelle et vice-versa? Je te renvoie la question, je ne sais pas.
Bien, tu vois, la carte des 4 H, là, elle se sort en toutes circonstances. Mais tu sais, le but d'un gestionnaire, là, c'est de rendre son équipe mature. Hein? C'est de rendre, puis c'est d'être capable d'avoir cette lecture-là de comme moi, ma maturité professionnelle et personnelle et psychologique, comment elle influence la maturité de ma propre équipe. Puis, tu sais, vous connaissez sûrement la théorie de Hershey Blanchard, hein, du leadership situationnel, qui permet au gestionnaire de se positionner sur sa propre maturité, mais comment il va utiliser cette lecture-là par rapport à la maturité psychologique et technique des gens. Est-ce que, tout dépendamment de la maturité psychologique et technique des gens, ben on va avoir un leadership plus directif. Si tu as quelqu'un qui a une maturité technique basse, puis une maturité psychologique qui est très basse, bien là, tu vas aller vers plus le directif. Mais si tu as affaire avec quelqu'un qui a une maturité technique très élevée, puis une maturité psychologique très élevée, bien là, tu vas être dans un mode délégation. Donc, tu vas utiliser ta carte des 4 H différemment, tout dépendamment aussi de ta lecture de la maturité de tes coéquipiers. Puis cette facilité-là, tu sais, de se mettre... Moi, je dis tout le temps au gestionnaire, votre rôle premier, là, c'est d'aimer votre monde. Là, je ne parle pas d'amour, là, mais je parle d'un regard qui élève. Quand on est un gestionnaire qui dit, OK, là, je monte au balcon, je vais dans l'œil du cyclone, comment je vais faire pour aimer cette équipe-là? Ou comment je vais faire pour aimer mes collaborateurs puis faire sortir le meilleur d'eux-mêmes? Vous en avez sûrement plein de circonstances de dire, hey, j'ai dû modifier mon style de leadership en fonction des situations. Puis ça, c'est de la maturité. C'est de la maturité professionnelle. C'est une capacité de savoir se lire soi-même en fonction de où est rendu notre employé, notre équipe, les gens avec qui on collabore.
C'est super intéressant.
C'est des bons conseils pour les gens qui nous écoutent, en tout cas, je pense.
On est tous en train de faire une introspection.
Oui.
De votre côté, Jérémy, Catherine, est-ce que vous considérez que vous connaissez bien votre équipe? Est-ce qu'il y aurait du travail à faire? Est-ce que vous réalisez quelque chose sur les paroles d'Alexandra?
Moi, je considère en tout cas au niveau de l'autonomie, d'avoir un niveau de délégation en tâches et responsabilités. Souvent, c'est les deux types de délégation. Puis, il faut être maniable, être capable de s'adapter en fonction de chaque personne plutôt que d'avoir la même stratégie en tout temps avec notre équipe. L'avantage qu'on a dans les services, dans les centres de services scolaires, contrairement à dans les établissements qui ont une réalité qui est probablement différente, là, on choisit nos équipes. Souvent, on a une plus grande stabilité même nos équipes. Fait qu'à long terme, mais les gens dans notre équipe, on les a sélectionnés hein, pour certains rôles. Fait que ça nous donne l'avantage de bien les connaître, puis de savoir exactement pourquoi, puis avec quelle qualité, dans le fond, quelle qualité on a reconnu en eux pour le rôle qu'ils ont joué dans notre équipe.
Intéressant. Est-ce que c'est facile de trouver un équilibre dans tout ça, Catherine?
Facile, je dirais pas facile. je pense que c'est un défi du quotidien. Hein? Puis la maturité professionnelle, c'est vraiment une thématique transversale qui impacte tout, là, dans le fond, dans tous nos dossiers, peu importe qu'est-ce qu'on va faire. Donc, je pense que c'est d'avoir ce petit réflexe-là qu'on va développer au quotidien. Un élément là, que je voulais rebondir, que d'entrée de jeu, là, on avait parlé un petit peu, quand on embauche les gens, souvent on va se baser sur est-ce qu'ils ont les compétences techniques, le savoir-faire et tout ça. Puis moi, ça a toujours été un peu mon cheval de bataille de dire, bien, moi, je veux que la personne elle ait un savoir-être minimum. La job, on peut y montrer. On a d'autres personnes à l'interne qui, les gens sont capables d'apprendre un logiciel, c'est pas juste se donner la peine que. J'ai toujours trouvé ça plus difficile de travailler le savoir-être d'un de mes employés.
Moi, je suis d'accord avec toi, là, Catherine. Probablement qu'on a avantage à trouver un fit, hein, pour notre équipe là, au niveau de la personne plutôt qu'au niveau là, des connaissances spécifiques dès le départ. Là.
Alexandra, vous avez le goût de réagir?
Moi, je dis toujours aux gestionnaires, prenez pas pour acquis que vous gérez de la main-d'œuvre. Vous ne gérez pas juste de la main-d'œuvre, vous ne gérez pas des gens qui arrivent. Oui, ils arrivent avec des compétences techniques, ils ont leurs mains qui sont en train de travailler, mais plus on va se mettre dans la tête qu'on gère de la tête d'œuvre. Donc, quand on gère de la tête d'œuvre, qu'est-ce qu'on fait de différent? On gère des gens qui arrivent avec des talents, des compétences, des ressources, des expériences passées. Puis quand on est ce gestionnaire-là qui fait émerger la tête d'œuvre, là, on va chercher du savoir-être. Toi, qu'est-ce que tu aimes? Toi, dans quoi tu penses que tu es bon? Qu'est-ce que tu veux développer? Puis là, on ne développe pas juste un savoir technique. On ne développe pas juste le savoir-être, le savoir-faire. On développe le savoir-être parce que à ce moment-là, le gestionnaire se positionne comme un chef d'orchestre qui gère de la tête d'œuvre, qui peut faire un chef-d'œuvre. Comprenez-vous les petites nuances? Puis quand je me dis, OK, je veux être mature, bien, la maturité, c'est être capable de déléguer. Mmh. Puis déléguer, c'est accepter que ça ne sera pas fait comme nous, on veut.
Mmh.
Il y a un bon gestionnaire qui a une maturité et qui veut développer la maturité de son équipe, nécessairement, il va falloir qu'il passe tôt ou tard par la petite tape dans le dos de « Hey, je te fais confiance, je te délègue ça. Mm-hmm. » c'est souvent ça qui est difficile, mais ce regard de confiance-là peut donner des ailes à des collaborateurs quand on a cette posture-là.
Jérémy et Catherine, est-ce que vous êtes toujours considérés matures professionnellement? On ne parle pas de vos vies personnelles, ça vous appartient. Est-ce que vous avez évolué? Est-ce que vous avez vu que vous êtes amélioré en cours de carrière? Avec un pas de recul, justement, est-ce que vous auriez agi différemment dans un contexte, une situation? Comment vous nous décririez votre évolution de maturité professionnelle?
Il y a principalement deux éléments, là, moi, je trouve, qui ont évolué. Dans le fond, on est embauché. Ben moi, j'ai été embauché plus pour une expertise que comme gestionnaire. J'ai appris à devenir gestionnaire avec le temps. Et il y a un premier élément, là, c'est au début, je pense que j'écoutais pour répondre aux gens au lieu d'écouter pour les comprendre. Puis ça, c'est une évolution qui s'est faite tranquillement, pas vite, dans mon parcours. Puis c'est avec du recul que j'ai pris connaissance, pris conscience, dans le fond, là, de cette évolution-là. L'autre élément, là, c'est... Je pense qu'au début, quand tu rentres en place, il y a des situations. Je vais essayer de donner un exemple là, qu'on vit dans nos centres de services scolaires. Une posture au niveau du centre de services scolaires ou une vision qui diffère de celle des écoles ou d'un syndicat. On va, dans le fond, entreprendre là, des négociations ou une vision là, de gagner ou perdre, dans le fond, hein, la position. Puis ça s'est transposé à travers le temps à comment on peut en venir à une entente, trouver une entente, une voie de passage par rapport à la situation. Quand la vision n'est pas pareille dans une école puis un centre de service scolaire, le seul qui peut perdre, c'est l'élève. En gros, tu sais, après ça, ben, c'est trouver une voie de passage pour que tout le monde y trouve, dans le fond, du sens là, dans cette situation-là. C'est un peu plus l'angle qu'on prend quand on se développe, là, dans le fond, comme gestionnaire.
Super intéressant. Ça, c'est important, Alexandra, que tout le monde trouve sa part du gâteau, il goûte.
C'est pour ça qu'il faut souvent se ramener à OK, là, est-ce qu'on est mature comme groupe? Est-ce qu'on est mature comme. Est-ce qu'on est en train de se battre ensemble, de argumenter, plutôt que de dire OK, quelle souplesse on peut se donner, quelle. Tu sais, vraiment, est-ce que je fais de la boxe ou je veux faire du judo? Chou, face aux situations. Puis ramener au but commun.
Pour moi, de mon côté, mes défis, c'était plus, je dirais, j'ai plus évolué, mais il y en a un qui ressemble à Jérémy. Le volet humain, dans le fond, justement, d'être... tu sais, pour moi, je suis vraiment rationnelle comme personnalité par défaut. Fait que c'était plus facile d'être axée sur la tâche, d'être dans qu'est-ce qu'il y a à faire. J'ai jamais été quelqu'un qui s'enflammait dans les émotions, mais d'accueillir les émotions des autres, tu sais, puis d'être capable après de cumuler sur ça, là, puis d'en tirer le meilleur parce que la confrontation, elle est saine. Puis je pense que si les gens ose aller dans la confrontation puis tout ça, mais ça veut dire qu'il y a une base de confiance qui est là, donc de ne pas bloquer ça et tout ça. Je pense que ça fait partie un petit peu de mon cheminement vers la maturité professionnelle. Puis sinon, peut-être l'aspect de délégation, dans le sens où moi, j'ai été quand même rapidement jeune dans des postes de gestion. Puis, on dirait que tu veux te prouver un peu. Hein, au début, tu es capable de tout faire, puis tu as l'ego et tout ça. Mais à un moment donné, tu te rends compte que tu peux pas être toujours dans l'opérationnel en étant dans la gestion. Hein. Donc, c'est pas pour rien que tu as une équipe. Puis, accepter que dans le fond, le comment on va faire la tâche importe peu. Hein? Si les gens comprennent quel est le but ultime et tout, ben les gens ont des forces, ont des bagages différents, ben de les laisser exécuter la façon qu'ils veulent le faire, s'ils comprennent où est-ce qu'on s'en va. Donc, c'est ça, ça fait partie de mes cheminements, je dirais.
Qu'est-ce qui se passe quand l'équipe, les employés sont plus matures que le leader, le gestionnaire?
Ça, c'est difficile.
Ça doit arriver dans certains contextes, certains milieux.
Ah oui, on peut l'observer, mais je pense que c'est comme un double défi pour l'employé dans ce cas-là. Là. Tu sais, parce que des fois, ça peut être l'employé qui se ramasse un peu dans une position de coaching de son supérieur.
C'est là que la carte des 4 H d'humilité prend tout son sens aussi. Tu sais, quand un gestionnaire prend une équipe qui est très mature, ça arrive, ça, souvent, hein, dans une équipe qui est très, très compétente, puis le gestionnaire est là, puis se rend compte que connaît moins le travail technique. Mais, tu sais, votre rôle, c'est pas de... Tu sais, je prends l'image, le chef d'orchestre, il sait pas jouer de tous les instruments. Il sait vraiment pas jouer de tous les instruments, mais il sait donner le tempo, il sait donner la tonalité, il sait encadrer. Puis là, dans ce temps-là, c'est là que quand un gestionnaire est moins mature qu'une équipe, le gestionnaire, son rôle, ben, c'est mettre son ego de côté, premièrement, hein, puis sortir sa carte d'humilité puis faire rayonner son équipe. Un bon gestionnaire, là, c'est quelqu'un qui, des fois, qu'on n'a pas besoin. Parce que l'équipe est rendue tellement autonome. Tu sais, moi, j'ai travaillé à monter des équipes semi-autonomes dans des milieux où l'équipe était tellement s'autogérait tout seul. Puis ça, c'est beau parce que là, t'es dans une posture stratégique. T'es pas dans la poutine.
Exactement. Mais c'est parce que moi, j'adore, là, parce que tu sais, je suis vraiment, revendicatrice que oui, les gestionnaires doivent être dans la stratégie, puis la vision, puis un peu comme le chef d'orchestre et tout. Fait que c'est sûr que ça me parle beaucoup, là, ce que t'amènes, Alexandra.
Ben, il y avait peut-être un petit peu, là, je pense que ça fait partie de notre rôle, puis ça se gagne avec un petit peu avec le temps, là, mais c'est dans quelle disposition on se présente hein, pour faire notre rôle de gestionnaire le matin? Parce qu'il y a une partie, dans le fond, là, où est-ce que je pense qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de notre rôle, il y a beaucoup de notre travail qui est exigeant et qui nécessite qu'on ait un équilibre entre la vie personnelle, la vie professionnelle, qui est quand même un bon équilibre entre les deux, de manière à être capable d'être bien disposé à entreprendre des situations qui sont complexes. Parce qu'on les additionne dans le cours d'une journée. Fait que ça, c'était peut-être un volet qu'on a moins travaillé un petit peu, mais s'assurer qu'on prend du temps de qualité avec les gens qui nous entourent, qu'on apprécie, puis de faire ce qui nous passionne, que ce soit les arts, le sport ou autre, là. Mais de se garder des moments pour nous, c'est quand même important comme gestionnaire. Je pense que c'est une des clés là, ou des prédispositions de pouvoir mettre en œuvre de la maturité professionnelle ou de la maturité au niveau de notre équipe là, dans le cadre de notre travail.
Moi, ce que je retiens vraiment, là, c'est pour moi, la maturité professionnelle est intimement reliée au courage managérial. Puis des fois, ça va être le courage de nommer, mais des fois, ça va être le courage aussi de se retirer. Puis je fais le lien avec le gestionnaire plus stratégique. Qui accepte d'avoir un pas de recul, puis d'être dans la vision. Puis des fois, c'est déstabilisant d'être dans la stratégie si on a fait auparavant beaucoup d'opérationnels parce qu'on a le sentiment de rien faire, le sentiment de vertige parce qu'on tombe en planification des choses en direction des autres. Mais c'est nécessaire d'avoir quelqu'un qui nous guide.
Alexandra, est-ce qu'on a un dernier conseil, le conseil ultime à retenir peut-être pour les auditeurs?
Ben, Je vais finir en disant que souvent dans les émotions, tu sais, quand on veut développer notre maturité psychologique, notre intelligence émotionnelle, on voit beaucoup que les émotions, c'est là, mais j'ai envie de vous dire, allez donc voir en dessous de la table, qu'est-ce qui se cache derrière les émotions? Puis, qu'est-ce qui se cache derrière des émotions? C'est des besoins. Puis, quand on est capable d'identifier le besoin derrière l'émotion, on devient beaucoup plus intelligent et beaucoup plus mature. Je vais donner un exemple. Tu sais, quelqu'un qui vous dit, par exemple, « Oh, je suis tellement stressée, là, j'y arriverai pas, là, j'arriverai pas à remettre le document à temps, tout ça. » C'est quoi son besoin à travers? T'sais, parce que l'émotion, c'est « je suis stressée, je ne sais plus quoi faire ». Puis quand on est un gestionnaire mature ou quelqu'un qui accompagne quelqu'un, on va essayer de dire « de quoi tu as besoin? Est-ce que tu as besoin de temps? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu as besoin de soutien? » Tu sais, quelqu'un qui dit « est-ce que tu as besoin de reconnaissance? » Puis quand on a cette sensibilité-là de lire « qu'est-ce que la personne est en train de me dire au-delà de l'éventail d'émotions, c'est quoi le besoin? Sur un besoin, on a de la prise, on a de la pogne, je vais le dire comme ça. On dit, OK, elle a besoin de soutien, elle a besoin de reconnaissance, puis là, on a des actions de gestion à pouvoir mettre en place. Le débordement d'émotions, on n'est pas tout psychologue, puis même moi, je suis psychologue, puis des fois, je ne sais pas quoi faire. Et je me dis tout le temps, OK. Puis être capable de se le poser à soi-même aussi, c'est quoi mon besoin? T'sais, j'ai-tu besoin d'un espace? J'ai-tu besoin de temps? J'ai-tu besoin d'aide? Puis, tu sais, ça revient à ce que Jérémy dit. Pour accroître notre maturité psychologique, on ne peut pas l'accroître tout seul. On ne grandit pas seul. On grandit avec les autres. On grandit dans nos rapports avec les autres. Puis notre capacité de dire, « Hey, je pense que j'ai besoin d'aide là-dessus. » Ça, c'est très mature. D'être capable d'aller chercher de l'aide. C'est très mature de dire, je me sens un petit peu dépassée puis j'aimerais ça t'en jaser pour voir plus clair. Mais tu as un besoin de collaboration, de communication. Au lieu de dire, je suis dépassée puis je suis envahie, bien, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin d'autonomie. Pensez en termes de besoin, ça va vous aider à grandir en maturité dans la cour. C'est un petit peu ça.
Alexandra Larouche, Jérémy Forgue, Catherine Boileau, merci d'avoir été avec nous.
Oui, merci. Oui.
En espérant que la maturité professionnelle ne cesse jamais d'évoluer chez vous, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tous les balados, les différents thèmes que vous voulez entendre, réentendre pour apprendre à évoluer de votre côté sont disponibles sur notre site www.aqcs.ca. À bientôt! La QCS remercie la personnelle. Assureur de groupe auto, habitation et entreprise, son fidèle partenaire de production de la série Balada QCS.